Nous avons déjà écouté le psalmiste qui proclamait « J'aime ta loi, ô Éternel. J'aime ta Torah, ton instruction, ton enseignement. Oh, combien j'aime ta parole. Elle me rend sage. Elle me dirige. Elle m'éclaire. Elle est ma joie. » Et dans l'évangile de Luc, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, à leur insu, écoutez la parole de Dieu, de la bouche de Jésus lui-même. Et ils ne savaient pas pourquoi, mais le cœur brûlait au-dedans d'eux. À l'autre bout de l'évangile de Luc, au chapitre 2, il y avait un autre disciple, un homme âgé, qui aimait de tout son cœur la parole de Dieu. Et un jour, cet homme est venu au temple, et là, il a fixé les yeux sur un jeune couple là, dans la foule, qui s'approchait. Le mari, je suppose que c'était lui, qui portait une petite cage avec deux oiseaux, deux pigeons. Et sa jeune femme portait un bébé sur son sein. Et probablement, à la grande surprise du couple, ce vieillard s'avance et il prend le petit bébé dans ses bras. Et puis il prononce ces paroles extraordinaires. « Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël. » Wow. Vous imaginez la réaction des gens? Peut-être le jeune couple, eux, ils comprenaient quelque chose un petit peu mieux, mais les autres, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais cet homme âgé, vous connaissez son nom? Simeon, ouais. Il est permis de parler dans une église réformée, il me semble. Simeon, ouais. Cet homme âgé, dans la tradition chrétienne, on appelle sa prière le Nunc Dimittis. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression en latin. C'est-à-dire, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. « Selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Et puis, il cite « Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Il cite un texte du prophète Ésaïe. Et ce matin, c'est ce même texte de la parole de Dieu que nous voulons méditer pendant quelques instants ensemble. Parce que si nous le comprenons bien, comme Simeon l'a comprise, c'est la parole la plus extraordinaire dans l'histoire du monde. Et si nous la comprenons bien comme Simeon l'a comprise, nous pouvons mieux saisir le plan de Dieu pour notre monde et notre rôle dans ce plan. Et nous pourrons dire avec Simeon, « Nunc dimittis, maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. » Alors je vous invite, si vous avez votre Bible, à ouvrir votre Bible dans le prophète Ésaïe, le chapitre 49, ou à suivre sur la feuille que vous avez là sous les yeux. Ésaïe, chapitre 49. Vous savez, les premiers chrétiens, dans l'Église primitive, ils avaient une variété de noms et de titres pour Jésus. Jésus lui-même s'appelait souvent le Fils de l'homme. Les chrétiens de l'Église primitive l'appelaient aussi le Fils de Dieu, correctement. Le Messie, Hamashiach, en hébreu, loin. Ou le Christ, qui veut dire la même chose, loin de l'Éternel. On l'appelait souvent le Seigneur. Mais il y avait un autre titre, un autre nom, que nous n'utilisons pas souvent, mais que les premiers chrétiens affectionnaient beaucoup. Et c'est le serviteur, ton serviteur Jésus, le serviteur de l'Éternel. D'où vient ce nom, serviteur, le serviteur de l'Éternel? Mais bien sûr, il y avait d'autres personnages dans la Bible avec ce nom, serviteur, surtout dans l'Ancien Testament. Moïse était connu comme le serviteur de l'Éternel. Abraham, Josué, Job, mon serviteur. David, mon serviteur. Même un roi païen comme Nebuchadnezzar, à un moment donné, il est appelé le serviteur. Mais il y avait un autre individu qui a reçu ce titre à deux reprises. Vous allez le reconnaître si vous connaissez votre Bible. Voici mon serviteur, mon élu, en qui mon âme se complaît. Ça vous dit quelque chose? Vous le retrouverez dans le Nouveau Testament, mais c'est une citation de Ésaïe chapitre 42. Et puis un autre. Voici mon serviteur. Il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. Cette introduction peut être, j'espère, bien connue à ce texte du serviteur Ésaïe chapitre 53. Enfin, ça commence à la fin du chapitre 52. En fait, il y a dans le prophète Ésaïe quatre textes, quatre passages que nous appelons les chants, C-H-A-N-T-S, et je ne sais pas pourquoi, mais dans la tradition chrétienne, c'est comme ça, les chants du serviteur. Quatre textes. Vous connaissez sans doute le plus connu parmi les quatre, Ésaïe 53. Le premier, comme j'ai dit, c'est Ésaïe chapitre 42. Et les deux autres se trouvent au chapitre 49 et au chapitre 50, à partir du verset 4. Alors, ce matin, toujours au début de cette nouvelle année devant nous, avec toutes nos églises rassemblées, je crois que nous ne pourrions faire mieux que de mettre le spot sur le grand dessein de Dieu, son grand plan pour le monde entier. Et c'est ça ce qui est révélé dans le texte de l'Écriture. Qu'est-ce que Dieu voulait faire dans ce monde? Qu'est-ce que Dieu voulait faire dans la vie de son peuple? Qu'est-ce que Dieu veut faire toujours, aujourd'hui, dans la vie de son peuple, dans nos églises? Qu'est-ce qu'il veut faire dans ma vie et dans la tienne? C'est ce petit texte d'Ésaïe chapitre 49 qui va nous aider. Et avant tout, nous voulons voir comment tout le programme de Dieu pour notre monde, passé, présent et dans l'avenir, est centré sur un personnage clé, le serviteur de l'Éternel, le serviteur par excellence, Jésus-Christ. Vous voulez travailler avec moi? Retroussez les manches. Allons-y. Mais d'abord, nous devons reculer un petit peu beaucoup. Qu'est-ce que Dieu voulait faire avec ce monde lorsqu'il avait créé? La parole de Dieu, dans la Genèse, nous dit que Dieu, lorsqu'il a créé ce monde, il voulait le remplir de sa gloire. On le voit dans la création, ici à Annecy. J'ai fait le chemin de Dugine jusqu'ici ce matin. Vous connaissez cette route? Magnifique! Et on voit la création, et une création déjà touchée par le péché. Imaginez qu'est-ce qu'elle était avant. On voit cette création qui reflète la gloire de Dieu dans le monde créé, dans le monde animal, avec toutes les étoiles, toutes les créatures, remplir ce monde de sa gloire. Et c'était bon, c'était tov en hébreu. Et puis, plus, Dieu voulait faire plus. Parce que là, après, il a créé l'homme mâle, l'homme femelle, ensemble. Créé, avec une différence, créé à son image. Pour refléter la gloire de Dieu d'une manière tout à fait particulière. Et c'était tov, mais od, c'était très bon. Et Dieu voulait donner à ce couple-là le mandat de remplir le monde, de gérer ce monde, de refléter la gloire de Dieu dans le monde entier comme ses serviteurs fidèles. Alors, ça a bien réussi? Hélas, non. Et vous connaissez la suite. Le péché, l'indépendance obstinée de la créature a tout gâché. Des années plus tard, à l'époque de Noé, le texte biblique dit « Le monde était rempli de violence. » Et après la tour de Babel, le monde était rempli d'hommes et de femmes rebelles qui refusaient de marcher avec Dieu. Mais notre Dieu n'a jamais abandonné son dessein pour le monde. La terre sera remplie de la gloire de Dieu comme les eaux recouvrent le fond de la mer. C'est un refrain qui revient et qui revient et qui revient dans les Écritures. Dieu va accomplir son dessein. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi un homme, Abraham, afin de faire quelque chose pour lui et afin de faire quelque chose par lui. Pour lui, Dieu voulait l'utiliser maintenant. Et lui, il deviendrait une grande nation, la nation d'Israël, le peuple d'Israël, un nouveau peuple, un peuple d'adorateurs. Et Dieu voulait que ce nouveau peuple puisse vivre selon le cœur de Dieu, dans la lumière, comme des serviteurs fidèles, dans la sainteté. Comme de vrais adorateurs, un peuple qui deviendrait un témoignage puissant pour la gloire de Dieu. Et Dieu voulait aussi faire quelque chose par ce peuple, parce que Dieu avait donné la promesse qu'un jour, ce peuple deviendrait une bénédiction pour tous les autres peuples de la terre. Et que par ce peuple viendrait quelqu'un de la descendance de la femme qui renverserait définitivement la malédiction qui a pesé sur la création depuis le début avec le péché. Puis Abraham, après lui, il y a eu Isaac, puis Jacob, puis les 12 tribus. Et il a choisi la tribu de Juda. Et de la tribu de Juda, plus tard, il a choisi un homme pour devenir le roi, le chef, le serviteur de son peuple, le roi David. Mais hélas, ni lui, ni le peuple n'étaient capables vraiment d'accomplir le dessein de Dieu. Ni lui, ni le peuple n'étaient des serviteurs vraiment fidèles. Et pourquoi pas? Le problème de fond était toujours là. Le cœur, le péché, notre égoïsme, notre idolâtrie, notre indépendance. Israël, le peuple, a échoué comme serviteur. Apporter la lumière, manifester la gloire de Dieu dans le monde, établir le règne de Dieu sur la terre entière, attirer les autres nations à la lumière de Dieu. Vous lisez votre Bible, dans l'Ancien Testament, échec sur échec sur échec, et même parmi les meilleurs. Et nous avons l'impression, en lisant les pages de l'Ancien Testament, que le plan de Dieu pour le monde, de remplir le monde d'un peuple d'adorateurs, de remplir le monde de sa gloire, impossible. Impossible, jamais. Cela ne se réalisera jamais. C'est notre impression. Vous savez, dans toutes les autres religions du monde, y compris des déformations du christianisme et dans les sectes, c'est toujours l'homme qui doit chercher à se sauver lui-même. Mais le message central de l'évangile, de la parole de Dieu, c'est l'annonce que c'est Dieu lui-même qui sauve son peuple. J'entends un amen.
Amen.
C'est Dieu lui-même qui sauve, qui a sauvé et qui sauvera son peuple. Maintenant, notre texte, le prophète Isaïe. Huit siècles avant Christ, ce prophète a exposé clairement les fautes du peuple, leur échec comme serviteur, mais en même temps, il nous présente quelqu'un dans ces chants du serviteur, quelqu'un de mystérieux dans ces quatre chants. Nous trichons parce que nous savons qui c'est. Qui c'est ce serviteur? Nous le savons. Mais mettons-nous à la place d'Ésaïe et du peuple de son époque. Eux, ils ne savaient pas. Dans le premier chant, 42, et dans le dernier chant, 53, c'est Dieu qui parle du serviteur. Mais dans le deuxième chant ici, et dans le troisième, c'est le serviteur lui-même qui parle. Écoutons. Verset 1. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Tout de suite, attention. Pour nous, les îles, c'est des vacances. C'est les Antilles, c'est Madagascar, c'est quelque part, c'est super, c'est génial les îles. À part pour les Hébreux. Le peuple d'Israël n'aimait pas du tout la mer. Il n'y avait pas beaucoup de matelas parmi le peuple d'Israël, sauf un, il s'appelait Jonas, je pense. Ça n'a pas tellement bien marché, son affaire. Bon, les îles, c'était pour le peuple hébraïque, c'était la fin du monde. Et tout de suite, on voit l'orientation de ce serviteur lorsqu'il nous parle. Il appelle jusqu'au bout du monde. Les peuples lointains, écoutez-moi, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le sein maternel. Il a fait mention de mon nom dès ma sortie des entrailles de ma mère. Son ministère visera pas seulement son peuple, mais les autres peuples du monde entier. Et on voit qu'il a été choisi, préparé toute sa vie pour cette tâche unique. Remarquable. Puis verset 2. Et là, paradoxe, il y a quelque chose de très bizarre. Regardez. Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Une image qui est reprise plus tard dans le Nouveau Testament, si vous connaissez votre Bible. Une épée tranchante. Mais attention, ça c'est une arme puissante. Ça c'est redoutable. Ça c'est dangereux même. Mais quelque chose de bizarre, parce que il m'a couvert de l'ombre de sa main. Une arme puissante, mais qui est cachée, qui est couverte. C'est bizarre. Deuxième partie du verset. Il a fait de moi une flèche aiguë, encore une arme redoutable. Mais il m'a dissimulé dans son carquois. Mais, attendez, time out, bémol, bizarre. Il y a quelque chose qui cloche ici. Il y a quelque chose qui est formidablement fort. Et quelque chose qui semble couvert, mystérieux, caché. Il y a une grande force, mais cette force est cachée, on ne le voit pas. Il n'est pas utilisé. Qu'est-ce qui se passe ici? On va voir. Qui est ce personnage mystérieux ici? On va voir. Verset 3. Et il m'a dit, tu es mon serviteur. Israël en qui j'aurai ma parure. Ah, enfin. Maintenant, nous avons la réponse. Le serviteur, selon le verset 3, c'est Israël. Est-ce que vous avez dans votre texte? N'est-ce pas? Le serviteur, c'est l'Éternel en qui j'aurai ma parure. Autre traduction, ma splendeur, ma gloire. Waouh, enfin, maintenant nous le savons, c'est Israël, c'est le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Mais, sa parure, sa gloire, sa splendeur, franchement, ce n'est pas brillant. Si on voit le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu voulait pour son peuple. Mais c'était loin, loin, loin de la réalité. Alors, ce texte nous laisse avec quelque chose de très bizarre. Continuons, poussons un peu plus loin, parce que c'est encore plus bizarre. Verset 4. Et moi, j'ai dit... C'est en vain que je me suis fatigué. C'est pour le vide, la vanité que j'ai consumé ma force. Oh, on s'arrête là. Et là, au début de ce verset 4, nous avons l'impression d'une déception dans le ministère du serviteur. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pour du vide, c'est pour du vent. Et nous avons l'impression que sa mission, au lieu d'une grande réussite, sa mission s'est soldée par un échec. Mais, malgré ça, des dernières parties du verset, certes, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Wow. Malgré les apparences, le serviteur, il sait que son travail est accepté, approuvé devant Dieu, mais ça reste toujours une histoire très paradoxale, n'est-ce pas? Et vous allez voir, car au verset 5, nous arrivons au sommet du paradoxe. Alors là, il faut aller doucement. Verset 5. « Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et pour qu'Israël soit assemblé auprès de lui. » Oh, stop, encore. Alors maintenant, franchement, je ne comprends plus rien du tout. Parce qu'on avait dit au verset 3 que le serviteur, c'est Israël. Mais au verset 5, le serviteur, il a comme mission de ramener Israël. Vous voyez le problème? Vous voyez le paradoxe? Mais il est Israël ou il n'est pas Israël? Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment est-ce qu'il faut comprendre tout cela? Au 19e siècle, il y avait un pasteur évangélique luthérien qui s'appelait Franz Delitzsch. Et en prêchant, en enseignant sur ce texte, il a évoqué l'image d'une pyramide. Et depuis, les biblistes l'appellent la pyramide de Delitzsch. C'est-à-dire, la base de cette pyramide. Avant la chute, Dieu voulait que l'humanité tout entière vive comme ses enfants, comme des serviteurs fidèles de Dieu. Mais avec l'entrée du péché dans le monde, c'était fini. Et après, Dieu a choisi la famille de Noé comme peuple d'adorateurs, comme ses serviteurs, mais, comme vous savez. Et après, il a choisi Abraham, et de lui, il a créé la nation d'Israël comme serviteur. Mais hélas, vous savez comment ça a terminé. Et on continue, et le faisceau commence à se rétrécir, de plus en plus. La tribu de Judas, la famille de David comme serviteur fidèle. Et le faisceau se rétrécit jusqu'au jour où Dieu lui-même envoie son serviteur, le serviteur par excellence, pour accomplir tout ce que les hommes ne pouvaient pas. Le salut vient de l'Éternel. Et maintenant, on arrive tout à fait en haut de cette pyramide. Et tout le dessein de Dieu passe et est centré maintenant sur un seul homme, un seul personnage, tout au sommet de cette pyramide d'humanité. Lui, le serviteur, il est l'Israël parfait. Il est Israël incarné. Tout ce que Israël aurait dû être, lui, il est. Lui, il est. Il est le serviteur parfait. Le seul qui puisse accomplir tout le dessein de Dieu. Vous savez qui c'est? Amen. Verset 5, au milieu maintenant. Je suis glorifié aux yeux de l'Éternel, car mon Dieu a été ma force. Et maintenant, regardez au verset 6. Non, attendez. Est-ce que vous connaissez la pyramide du Louvre à Paris? Tout le monde connaît la pyramide du Louvre. Est-ce que vous connaissez la pyramide qui se trouve sous l'arc du carrousel? La pyramide inversée, qui descend de l'autre côté. Qui l'a déjà vue de vos yeux? Bon, certains parmi vous, vous l'avez vu, c'était dans le Da Vinci Code, un film affreux, mais bon, ben, on l'a vu quand même là-dedans. Et puis, mais vous avez vu des photos, cette pyramide qui descend. Ce que nous avons ici, c'est quelque chose de semblable, parce que la pyramide de Delitzsch ne s'arrête pas. L'humanité, famille de Noé, Israël, Abraham, David, etc., pour arriver à Christ. Mais la pyramide, maintenant, va continuer de l'autre côté. Dans un sens comme cela. Verset 6. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur. » Ah oui, tu es mon serviteur. Tu es le serviteur parfait, idéal. Mais j'ai une intention plus grande pour toi. Pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Oui, Dieu voulait utiliser ce serviteur pour faire revenir son peuple d'Israël. Mais Dieu dit, c'est trop peu. J'ai une intention encore plus grande. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. » Et là, nous avons notre citation citée par Siméon tout à l'heure. Waouh ! Je t'établis, je te donne cette pyramide maintenant avec Jésus au sommet, ça continue de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y avait les 12. Et un peu plus tard, les 120 dans la chambre haute en attendant le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, il y avait 3000 juifs convertis. Et un peu plus tard, Dieu a franchi la barrière culturelle et religieuse pour toucher les Samaritains. C'est moitié-moitié. Et là, il y avait des convertis parmi les Samaritains. Et un peu plus tard, il a sauté encore une barrière. Et il a touché Corneille, un Italien, un gentil, un païen d'origine. Et ça continue, et la pyramide continue, et continue, et continue. C'est magnifique. Amen. Ouais, j'entends ça. Ouais, super. Et je dis, je veux plus d'un pays à l'autre, d'un siècle à l'autre, d'un continent à l'autre, pour arriver jusqu'à vous et moi, avec nos églises, ici ce matin, en 2012. Nous sommes toujours dans cette pyramide. Waouh. Tout le dessein de Dieu pour l'humanité, centré sur un seul homme. Oui, il était plus qu'un homme, mais c'était un homme quand même, un bébé dans les bras de Siméon. Siméon l'a compris. Et dans le dernier verset de notre texte, le verset 7, nous revenons à notre paradoxe, n'est-ce pas ? Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont la vie est méprisée et qui fait horreur à la nation, à l'esclave des dominateurs. Et là, on voit, on prévoit un petit peu dans ces mots les souffrances de ce serviteur. Souffrances qui seront décrites un peu plus tard dans le troisième chant, chapitre 50, et surtout dans le quatrième chant, Ésaïe 53, que vous connaissez bien. Mais regardez la suite du verset. Mais des rois le verront. Et ils se lèveront, et les princes, ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Alors mes frères et sœurs, vous voyez, toute l'histoire du monde, tout le dessein de Dieu est focalisé, centré, concentré sur ce personnage, le serviteur, Jésus-Christ, le Logos, la parole de Dieu, faite cher, et qui a tabernaclé au milieu de nous. Il n'y a pas d'autre solution pour notre monde. Il n'y a pas d'autre chemin, même si on nous dit que tous les chemins mènent à Dieu. Jésus seul est le chemin. Il n'y a pas d'autre vérité, même si on nous dit que chacun a sa vérité. Jésus seul est la vérité. Il n'y a pas d'autre vie. La vie, la vraie, malgré la pub d'Auchan il y a quelques années. Non, il n'y a pas d'autre vie, la vraie. La vraie vie se trouve en Jésus seul, parce que lui seul est la vie. Le message de la parole de Dieu est très exclusif, dans le sens qu'il est centré sur Christ, au sommet, au centre de cette pyramide, comme la solution unique pour notre monde, pour nos problèmes. Mais ce message, de notre côté, est très, très inclusif, très ouvert, très large, dans le sens que les portes sont grandes ouvertes pour inclure tout peuple, toute nation, toute langue, jeunes, vieux, hommes, femmes, enfants, tous sont invités. Et ça, c'est ce que nous avons en commun dans nos églises. Jésus est la lumière des nations, le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et mes frères et sœurs, n'oubliez pas que le ministère du serviteur dans ce texte continue. De l'autre côté de cette pyramide, jusqu'à chez nous, par la vie de ses serviteurs, vous et moi, nous sommes dans cette pyramide. Regardez encore le verset 6. « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. » Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Nous tous, ici, à Annecy, Albertville, dans l'île de Savoie, au Togo. Ils reviennent au Togo. À l'hôpital, à l'école, à la banque, où que vous soyez. Le plan de Dieu pour le monde entier passe par le serviteur. Par sa vie et par sa mort. Par sa croix et par le tombeau vide. Et ça, mes amis, c'est la parole de Dieu que nous avons le privilège d'avancer. Amen.